Le journal présenté par Ezequiel Fernandez.
Bonsoir à tous. Fin de partie pour François de Rugy, forcé à la démission. L'exécutif perd une fois de plus son ministre de l'écologie. Un nouveau coup dur pour Emmanuel Macron, nous dira Stéphane Robert. Et une affaire qui montre que la République exemplaire a du mal à se concrétiser, selon Paul Cassia, professeur de droit, auteur de La République en miettes, l'échec de la Startup Nation. Ursula von der Leyen, élue de justesse, présidente de la Commission européenne ce soir avec seulement quelques voix au-delà de la majorité. Elle est la première femme à occuper ce poste prestigieux. Correspondance dans ce journal, signé Johanna Holstein. Vous avez peut-être reconnu la voix de Johnny Clegg, décédé aujourd'hui à l'âge de 66 ans. Le chanteur sud-africain luttait contre le cancer depuis 4 ans. Surnommé le Zoulou Blanc, il s'était engagé dans la lutte contre l'apartheid. Il avait porté à travers le monde la parole et la révolte de tout un peuple. Johnny Clegg disparu à l'âge de 66 ans. Le ministère de l'écologie de nouveau orphelin. 11 mois après la spectaculaire démission de Nicolas Hulot, François de Rugy a jeté l'éponge. Il ne pouvait plus tenir sur le ring politique. Il finissait à peine de se redresser après un coup porté par les informations de Mediapart. Il en recevait un autre. À l'affaire du Omargate, direct, d'autres dépenses somptuaires, crochets, s'ajoutent des suspicions concernant l'utilisation de ses frais professionnels. Uppercut, François de Rugy au tapis, l'arbitre contre 10, fin de partie. Question ? Stéphane Robert, l'exécutif au plus haut niveau est-il intervenu pour limiter les dégâts ?
Officiellement, ni le président de la République ni le Premier ministre n'ont quelque chose à voir dans cette démission. Il s'agirait d'un choix personnel de l'intéressé qui aurait pris ses responsabilités pour ne pas gêner le gouvernement dans son action. Plus vraisemblablement, la situation commençait à devenir intenable pour un président de la République en pleine reconquête de l'opinion. D'une part, la réapparition des Gilets jaunes à l'occasion du 14 juillet, dimanche, sur les Champs-Élysées, a montré à quel point les raisons de la colère sont loin d'avoir été jugulées. D'autre part, les députés La République En Marche, qui ont raconté à l'occasion du petit déjeuner de la majorité ce matin à Matignon comment ça se déroule dans leur circonscription, ont achevé de montrer que cette affaire ne passe pas dans l'opinion. Les gens ne comprennent pas pourquoi Rugy ne démissionne pas, ont-ils expliqué au Premier ministre. Emmanuel Macron n'avait sans doute également pas très envie de voir cette affaire feuilletonner au fil des semaines et polluer la période estivale à l'image de l'affaire Benalla l'été dernier. D'autant que la rentrée pourrait bien être agitée avec une contestation qui continue de couver dans l'éducation nationale et puis une réforme des retraites dont on connaît le potentiel explosif. François de Rugy a donc été débranché, pour employer les mots consacrés en ces circonstances, et toute la difficulté va être de lui trouver un remplaçant, sans donner l'impression de dévaloriser les ambitions affichées par Emmanuel Macron en matière d'écologie.
Stéphane Robert, le chef du service politique de France Culture. À la place de François de Rugy, la secrétaire d'État Emmanuelle Wargon a défendu aujourd'hui au Sénat le projet de loi énergie et climat. Elle assure la continuité de l'État, dit-elle, en attendant la nomination, bien sûr, d'un successeur. Cette nouvelle démission entache encore un peu plus la promesse de campagne d'Emmanuel Macron d'une République exemplaire. Il y a loin de la coupe aux lèvres, estime Paul Cassia, professeur de droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur notamment, je vous le disais, de La République en miettes, l'échec de la start-up Nation. Le Omargate montre que la loi pour la confiance dans la vie politique de septembre 2017 ne va pas assez loin. Il répond à Cécile Carvaz-Doué.
Cette réforme de 2017-2018 n'a strictement rien changé. C'est une réforme cosmétique, comme je l'ai indiqué depuis l'origine, n'a rien changé à la situation des frais de mandat parlementaire qui reste toujours entouré d'une même opacité et d'une absence de contrôle. Je dirais même davantage qu'il y a une régression par rapport à l'état de droit existant, puisque l'Assemblée nationale et le Sénat ont autorisé chaque député et chaque sénateur à disposer d'une caisse noire de 600 ou 900 euros par mois d'argent dont ils peuvent disposer à leur convenance, qui peuvent être librement utilisés sans qu'il soit besoin de conserver des factures, ce qui n'était même pas permis avant le quinquennat Macron.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Mais il faudrait faire des choses très simples. Vous avez sans doute, comme journaliste, des frais professionnels. Et ces frais professionnels, vous les engagez, vous les faites rembourser en présentant des factures. Eh bien, ce qu'il faudrait faire, c'est suivre l'exemple de la Chambre des communes britanniques, c'est-à-dire publier pour chaque député et chaque sénateur les frais professionnels qui font l'objet d'un remboursement au titre de l'avance sur les frais de mandat. Ce mécanisme avait été évoqué au tout début du quinquennat Macron. Il a été rejeté parce que, soi-disant, ça coûte cher d'avoir, disons, une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de fonctionnaires chargés d'effectuer ces tâches. Mais la transparence a un prix, le respect des électeurs a un prix. Et quand il n'y a pas suffisamment de contrôle, il y a nécessairement des abus.
Paul Cassia, auteur donc de La République en miettes, l'échec de la Startup Nation, un livre publié aux éditions Libres et Solidaires. Le projet de loi santé d'Agnès Buzyn, définitivement adopté par le Parlement, un texte qui met un terme dès l'an prochain au fameux numerus clausus pour les étudiants en médecine, dans le souci d'augmenter le nombre de médecins. Autre disposition, la labellisation de 5 à 600 hôpitaux de proximité et la régularisation de médecins étrangers. Enfin, pour lutter contre la désertification médicale, les étudiants en troisième année de troisième cycle effectueront un stage sur le terrain, justement dans des zones en tension, notamment en zone rurale, d'au moins 6 mois ces stages. Demain, le CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, doit être ratifié par les députés, agriculteurs, défenseurs de l'environnement, opposants politiques de gauche sont vent debout contre ce texte. Cet après-midi d'ailleurs, entre 100 et 150 d'entre eux se sont rassemblés aux abords de l'Assemblée nationale pour dire tout le mal qu'ils pensent de ce texte. Pour la première fois, une femme prend la tête de la Commission européenne. L'Allemande Ursula von der Leyen, une chrétienne démocrate proche d'Angela Merkel. Elle occupait jusqu'à maintenant les fonctions de ministre de la Défense en Allemagne. Elle a été élue, mais de justesse, en début de soirée par le Parlement européen avec 383 voix, 9 seulement au-dessus de la majorité requise. Correspondance de Johanna Holstein.
Ursula von der Leyen vient d'être élue avec à peine 9 voix de plus que la majorité absolue qui lui était nécessaire. Un résultat très inférieur à celui obtenu par l'actuel président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, il y a 5 ans. Emmanuel Morel, de la France Insoumise.
C'est un camouflet pour Madame von der Leyen, mais aussi pour le Conseil des chefs d'État et de gouvernement qui avait trouvé une solution de briques et de broc. Madame von der Leyen a fait un discours ce matin avec quelques arguments vaguement progressistes. Mais on sait ce qu'il en est, c'est toujours des paroles et rarement des actes.
Les 3 principales forces politiques de l'hémicycle, les conservateurs, les socialistes et les libéraux, avaient appelé à soutenir la candidature d'Ursula von der Leyen après le débat de ce matin. Mais les socialistes français notamment, et les allemands, ainsi que les écologistes s'y sont opposés, ce que regrette Nathalie Loiseau, La République en marche.
Moi je regrette qu'on ait retrouvé les Verts du même côté que l'extrême droite à voter contre elle. Quand on est pro-européen, on vote pour quelqu'un qui a un agenda ambitieux, réformateur pour l'Europe.
À l'annonce des résultats, Ursula von der Leyen a poussé un ouf de soulagement. Dans une très courte intervention, elle a appelé tous les groupes politiques à travailler ensemble de façon constructive.
Ursula von der Leyen qui prendra ses fonctions en novembre prochain, la succession du luxembourgeois Jean-Claude Juncker. C'était prévisible. Le parquet de Paris fait appel de la relaxe générale prononcée par le tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire Tapie Crédit Lyonnais, procès centré sur l'arbitrage qui avait permis à Bernard Tapie d'encaisser 403 millions d'euros. Le parquet avait demandé en effet des peines d'emprisonnement contre 5 des 6 prévenus et 5 ans de prison à l'encontre notamment de Bernard Tapie. Le sida recule dans le monde, mais pas assez et pas partout. Résumé lapidaire, très lapidaire du rapport annuel de l'ONU Sida rendu public aujourd'hui. En 2018, 770 000 personnes sont mortes de maladies liées au sida. C'est tout de même un tiers de moins qu'en 2010. Le progrès est incontestable, mais une lecture attentive du rapport révèle une part d'ombre moins rassurante. Le rapport pointe notamment une baisse des ressources pour la lutte contre le sida. Ce sera l'enjeu d'ailleurs de la conférence internationale qui se déroulera à Lyon en octobre prochain. L'éclipse partielle de Lune commence tout juste, en principe, à être visible. En ce moment, elle sera à son maximum à 23h30. Notre satellite se retrouve dans l'ombre de notre planète, la Terre, alors qu'elles sont alignées avec le Soleil. Le spectacle peut se voir à l'œil nu, si le ciel le permet, bien sûr. Cette éclipse intervient 60 ans, tout juste, après le lancement de la mission spatiale Apollo 11, qui allait déposer, vous le savez, les premiers hommes sur la Lune. Le ciel, justement, voilé, mais demain, il n'empêchera pas l'été de s'exprimer. Une fois n'est pas coutume, la grisaille sera plutôt méditerranéenne, temps sec et chaud donc en perspective, hormis sur les massifs montagneux, température maximale de saison, pas plus de 24 degrés dans le nord-ouest, entre 25 et 35 partout ailleurs. C'est la fin de cette édition préparée avec Annie Brault. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture.